R22, tout monde.
Tout monde.
Antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, histoire, création,
création.
Politique.
Donc on va enchaîner directement avec le premier panel de cet après-midi qui s'intitule « Faire école » et donc qui posera la question de la place des femmes dans les cercles littéraires et notamment dans les groupes littéraires d'avant-garde. Cette question pose de nombreuses ramifications sociologiques, littéraires, historiques, et elle recoupe notamment des questions qu'on a vues ce matin, notamment dans l'exposé d'Audrey Lasserre, cette question de l'écriture de l'histoire et de qui écrit l'histoire et quel nom l'histoire va retenir. Il y aura deux exemples qui vont être évoqués, celui d'Anne Wildman dans un contexte américain et de Joyce Mansour dans un contexte français. Deux exemples qui seront abordés donc successivement par les communications de Vincent Broca et de Jeanne Pacharage. On va commencer par la présentation de Vincent Broca qui s'intitule « Anne Wildman, Fast Speaking Woman ». Donc, écrivain et traducteur, Vincent Broca est professeur de littérature et d'art nord-américain à l'Université Paris 8. Sa recherche porte sur les poétiques et arts expérimentaux, en particulier sur des autrices depuis Gertrude Stein jusqu'à Caroline Bergwall et Tracy Morris, en passant par Cathy Acker, Anne Wildman et Rosemary Waldrop. Il a créé le collectif Double Change et la revue plurilingue Quaderna. Parmi ses publications frais du jour, L'ours blanc, récupéré au petit matin, À partir de rien, esthétique, poétique et politique de l'infime chez Michel Audiard. Parmi ses traductions de l'anglais américain, Caroline Bergwall, L'anglais mêlé, une traduction qu'il a élaborée avec Anne Portugal et Abigail Lang, aux presses du réel, Anne Wildman, Archives pour un monde menacé chez Jo Casseria, et Harmonie Jaguar, Maelstrom. Et en mai 2021, paraîtra Photocall, projet d'attendrissement, donc un livre qui sera publié aux éditions Petit Matin. Je vous laisse la parole, Vincent.
Merci beaucoup, Lénaïgue, et merci à toutes de cette invitation. Alors, je vais partager mon PowerPoint. Et j'espère que j'ai partagé mon son, on verra ce qu'il en est. Donc, j'ai un peu changé mon titre. J'intitule cette communication « Poétique politique d'Anne Wildman ». 1. Relever les contextes. Dans « Astronomique assertion », Nathalie Quintane pense, pratique et critique sa politique supposée. Elle affirme « Tu dis « nous », suis-je dedans ?» Commençons plutôt par éclater le pronom « nous », disséquer « nous », vérifier des formules, relever des contextes, quitte à finir dos au mur. Issue d'une génération précédente et d'une toute autre tradition poétique que celle de Nathalie Quintane, Anne Wildman questionne elle aussi la communauté tout en la constituant. Elle pluralise les sujets et relève souvent les contextes par un travail sur l'archive passée et future de la poésie. Comme Nathalie Quintane, elle entretient un rapport critique et manifeste aux politiques. En 91, Brenda Knight, dans Women of the Beat Generation, remarque le peu de visibilité des femmes dans ce mouvement poétique des années 50 à 60. Aussi révolutionnaire, contre-culturel et politique qu'il ait été, le mouvement Beat a oblitéré certaines minorités. La critique récente s'est employée à faire réémerger les poètes noirs du mouvement ainsi que les femmes. Appartenant à une deuxième génération de la Beat Poetry et n'étant pas uniquement issue de celle-ci, donc de la Beat Poetry, Anne Wildman a cherché et a réussi à se singulariser en devenant l'une des poètes majeures de la poésie états-unienne sans attendre les réévaluations critiques. Qu'est-ce donc que la politique d'une femme qui s'est inventée poétiquement dans cette période, dans un milieu littéraire fortement structuré autour de figures masculines? Il faut rappeler que la fameuse anthologie de Donald Allen, The New American Poetry, qui a beaucoup fait pour structurer le champ de la poésie expérimentale états-unienne des années 60 et après, ne contenait que 4 poètes femmes sur 44 poèmes. Donc, qu'est-ce que c'est que la politique d'une femme qui est née poétiquement, qui s'est inventée poétiquement dans ce moment ? Nathalie Quintane encore. Tu sais que ce n'est pas en mettant Sarkozy, tag, écologie, tag, émeute, Guten Tag, que nous faisons le plus de la politique. 2. Matriots, émeute dans la langue et inconfort radical. Dans un entretien qu'il ajoute à l'édition anglaise du Partage du Sensible, Jacques Rancière voit dans l'art politique la production d'un double effet, c'est-à-dire la lisibilité d'une signification politique et un choc perceptuel ou sensible résultant en retour du trouble, j'ai choisi de traduire uncanny par le trouble ici, du trouble de ce qui résiste à la signification. Il ajoute que cet effet est toujours l'objet d'une négociation entre la lisibilité du message qui menace de détruire la forme sensible de l'art et le trouble radical qui menace de détruire tout sens politique. Si pour lui, la politique de la littérature ne se confond aucunement avec la politique des auteurs et des autrices, et si, dans son essai « Politique de la littérature », il oppose à ce qu'il appelle le « tapage démocratique des orateurs », le travail en profondeur de la littérature, la position, y compris politique, d'Anne Wallman dans la littérature est celle de la création d'un inconfort radical. En effet, dans un premier temps, on pourrait lire les poèmes et performances de la poète comme essentiellement politiques, sans y voir le trouble dont parle Rancière, mais plutôt la lisibilité du message. Il est vrai que ces poèmes sont souvent des appels, des prières, des proférations, ou encore parfois des rituels d'inspiration bouddhique qui cherchent à éveiller les consciences. On pourrait dès lors les confondre avec de simples poèmes engagés. Ainsi, sa performance « Rogue State », « État voyou » dans les deux sens du mot « État » de 2001, où elle accusait un État voyou en vociférant ce mot « Rogue State », peut sembler être la harangue d'une femme en colère qui ose élever la voix. Mais le tapage poétique d'Anne Wallman se caractérise aussi par cette voix moqueuse que nous allons entendre, moqueuse y compris d'elle-même. Elle frappe, voire casse les oreilles, par un chant volontairement faux, de mauvais goût, saturé de grave, d'aigu, de glissando audacieux. Alors, est-ce que ça va marcher? Let's hope.
Rogue state. I'm in a rogue state, honey. Getting unpredictable and strange. Just a rogue state itching to test my Harridan bardic range.
Pour des raisons de temps, je ne peux pas tout diffuser. Vous pourrez aller retrouver cette performance sur le site de Pen Sound. Alors donc, on entend très bien ici ce chant volontairement faux, un peu de mauvais goût, saturé de grave, d'aigu, de glissando audacieux, comme je le disais. C'est aussi ça la politique de cette femme, se présenter ainsi, présenter cette voix et ce corps entre harmonie et disharmonie. Il y a toujours quelque chose qui vient heurter la simplicité du message, le troubler et le plonger dans l'inconfort sans l'annuler. Dans Manity Humanity, un livre de 2009, ce livre donc, met en scène une éco-poétique dans laquelle la proximité sonore entre les mots humanity, l'humanité, et manity, le lamantin, c'est-à-dire ce mammifère intrigant en voie d'extinction et doué de capacités cognitives apparemment très supérieures. Donc, cette proximité sonore entre manity et humanity est le prélude à une recherche archéologique sur les espèces menacées et un appel lisible à sauver le lamantin. Mais c'est en même temps un poème philosophique conjuguant méditation bouddhique et recours aux rêves, où s'hybrident des narrations, des litanies, des extraits de journaux, des notes de lecture et des partitions. La lisibilité est ainsi troublée jusqu'à l'opacité par ce dispositif hybride. Pour parler d'un autre livre qui est plus directement en rapport avec les thématiques du colloque, Matriot Acts, publié en 2010, une courte pièce extraite de son épopée Jovis. Donc, Matriot Acts fonctionne également selon ce double paradigme que j'ai énoncé tout à l'heure. Du côté de sa lisibilité, cette pièce est écrite pour dénoncer le Patriot Act, c'est-à-dire cette loi liberticide votée sous George W. Bush après les attentats du 11 septembre. Mais puisqu'en anglais « act » désigne aussi bien une loi, une action qu'une pièce de théâtre, « Patriot Acts » se complique poétiquement et promeut une agentivité qu'on pourrait appeler « matriote » par le langage théâtral, tout en cherchant à déplacer le discours du patriotisme supposé et son attache au nom du père. En outre, ce poème fait apparaître ce que, dans ce mot « patriot », il se situe, donc, ce mot signe de la conception d'une identité fixiste, nationaliste, conservatrice. Donc, dans ce mot, elle fait remonter un autre mot, comme dans un inconscient linguistique, « riot ». On le voit ici sur cette page, « Matriot run riot ». Riot, en anglais, c'est l'émeute, et « to run riot », c'est agir violemment, sans restriction, se déchaîner, voire proliférer. Poétiquement, Waldman introduit le trouble en appelant à l'émeute et au déchaînement matriotique, qui n'est pas l'inverse du patriotique d'ailleurs. En effet, elle mine donc cette expression « Patriot Act » en faisant surgir l'émeute qu'elle contient dans son inconscient linguistique et malgré elle-même. Cette émeute est également produite par une langue qui rature, ici une autre page de la pièce, et qui affole le sens par la prolifération linguistique. Entre théâtre et rituel, la pièce échafaude une langue de sorcière où est invoquée la déesse Kali, les hyènes en jupon, les mères incendiaires, pour construire ce qu'elle appelle un féminafesto, c'est-à-dire précisément un texte qui irait à l'encontre de ce qu'on appelle en anglais « manifest destiny », qui est ici raturé, donc « manifest destiny », donc cette idée constitutive aux États-Unis, cette destinée manifeste constitutive aux États-Unis du sentiment patriote selon lequel cette nation aurait un rôle civilisateur vers l'Ouest et par extension dans tout le monde. Donc ici, elle rature « manifest destiny » pour proposer un manifeste, un « féminafesto », un « féminafeste », on pourrait dire. En raison même de ces émeutes dans la langue, en raison que je viens d'évoquer ici trop rapidement, en raison des métamorphoses de la forme que j'ai également évoquées avec Manity Humanity, en raison de l'inconfort des performances dont on a juste entendu quelques extraits avec Rogue State, les textes d'Anne Waldman génèrent comme une poétique qui, à chaque instant, menace de détruire tout message politique clair, univoque, aisé. La politique poétique d'Anne Waldman est inconfortable en ce qu'elle menace sa stabilité et qu'elle la menace en permanence, si je puis dire. Elle travaille, Anne Waldman, avec ses contradictions et ses ambiguïtés pour construire des systèmes ouverts. Ainsi, dans Gossamer, un autre livre de 2013, elle faisait lutter l'une contre l'autre deux Annes dont on ne savait pas in fine qui était la Anne poète et qui était la Anne antagoniste. Elle spectralisait ainsi le sujet énonciateur. Dans Fast Speaking Woman, cette conception du sujet était également à l'œuvre dans ce que j'appellerais une désidentification réidentifiante. Ce poème, publié en 1975 dans l'importante maison d'édition indépendante City Light Books, dont on se souvient que c'est cette maison d'édition qui a publié le poème très important de Ginsberg qui a lancé la Beat Generation, finalement, How. Donc, en publiant en 1975 ce poème, Fast Speaking Woman, Anne Waldman crée une litanie anaphorique où le jeu se définit le jeu se définit comme un sujet pluriel, et où, en retour, répétant sans cesse le mot « woman » en fin de vers, le jeu affirme ce que c'est que d'être une femme, ou pourrait-on dire une femme plusieurs, à une période où les femmes étaient en train de faire à l'art et à la poésie nord-américaine un mouvement de bascule. On se souvient en effet que 1975, c'est aussi l'année des performances iconiques du Scroll de Carolee Schneeman ou encore de la sémiotique de la cuisine, Semiotics of the Kitchen, cette vidéo de Martha Rosler, mais aussi des performance des alter-ego d'Eleanor Entin. Dans son avant-propos à Women of the Beat Generation, Waldman se rappelle avoir côtoyé dans ses jeunes années des femmes plus âgées ayant des aspirations à la création, mais qui, sous le coup de la domination masculine, n'avaient jamais, dit-elle, n'avaient jamais senti que leur corps leur appartenait ou qu'elles pouvaient l'apprécier. Dans une société où le puritanisme travaille fortement les corps et les modèles, contraintes d'un corps parfait à exposer à Dieu, contraintes du bodybuilding, du jogging, qui sont eux-mêmes issus du puritanisme, et avant le féminisme théoricien des années 80, avec des artistes comme Barbara Kruger ou Jenny Holzer, le travail de ces femmes artistes passait par la radicalité inconfortable de l'affirmation du corps, de ses organes, de la monstration de sa réalité physique et, somme toute, de l'exposition de celui-ci sur la scène du film, du théâtre ou de la lecture de poésie, tout autant que sur la scène de la page. Chez Waldman, c'est à la fois le texte et la voix qu'elle emprunte. Dans l'espace public, elle les expose dans l'espace public. Une voix claire, décidée, décisive, qui prenait la parole dans le sens fort de cette expression. Et je vous propose d'entendre un extrait de Fast Speaking Woman.
I'm a shouting woman. I'm a speech woman. I'm an atmosphere woman. I'm an airtight woman. I'm a flesh woman. I'm a flexible woman. I'm a high-heeled woman. I'm a high-style woman. I'm an automobile woman. I'm a mobile woman. I'm an elastic woman. I'm a necklace woman. I'm a silk scarf woman. I'm a know-nothing woman. I'm a know-it-all woman.
Etc. Le poème est très long. Voilà. Comme vous l'entendez, le travail anaphorique de la simple formule « I am a woman » est guidé par une poétique associative où se formule la contradiction de ces « women », mais aussi par une générativité de la lettre, souvent par paire de mots. Ainsi, ça c'est le tout début qu'on a entendu, et c'est le tout début que je présente ici. « Shouting »,« speech », c'est les « s », ensuite les « a », ensuite les « f », ensuite les « h », ensuite « mobile »,« mobile », ensuite « no, no », etc. etc. Donc, il y a une générativité de la lettre qui est une manière poétique extrêmement simple et efficace d'ouvrir le texte à un dépassement de l'intentionnalité. Ainsi, la formule d'affirmation « I am » ne s'abîme pas dans un essentialisme fixiste, mais plutôt dans la construction d'un sujet myriadique où la contradiction est à la fois saisissement et dessaisissement de soi. On y entend une perte de maîtrise, une prise de pouvoir dans la langue et, pour revenir à Nathalie Quintane encore, une auscultation de la formule. Cette litanie, tout comme l'ensemble de la poésie d'Anne Waldman, n'est pas sans distance ironique et critique qui fait douter du sens, qui peut l'opacifier ou le vivifier. D'ailleurs, le « je » de Fast Speaking Woman, c'est aussi the mocking woman, the monkey woman, the impatient woman, donc la femme moqueuse, la femme singe, la femme impatiente. L'auscultation critique de la formule anaphorique elle-même fait qu'elle se départit de ce pouvoir pourtant retrouvé ou trouvé, tout en le lançant à ceux et à celles qui lisent, reçoivent en performance ce poème. Le poème engendre donc une poétique horizontale, sans classement véritable et sans assigner « woman » à l'unicité de la catégorie. Le texte semble alors proposer une anarchie, un peu comme le dit Anne Waldman elle-même dans ses notes à Matriot Acts, je cite « Peut-être que le corps-esprit des femmes est intrinsèquement anarchique. » Notez le « peut-être » qui ouvre la formule, ce « peut-être » qui trouble la nature essentialiste de cette affirmation. Il faut entendre la critique que propose la poésie d'Anne Waldman. Il ne s'agit pas seulement d'un dissensus vis-à-vis de l'establishment, mais d'une critique qui vient de la politique de la littérature elle-même, telle que la définit Rancière. Une critique intégrée, somme toute ce qu'on pourrait appeler une critique intégrée, qui trouble la lisibilité du message. Dans Assertion astronomique, juste avant d'introduire la notion de critique intégrée, Nathalie Quintane affirme que le spécialement poétique ne se niche pas uniquement dans l'affectueux de l'anecdote, mais dans le démarrage critique qu'elle peut provoquer. 3. Zone d'invention démocratique, faire école ou pas, c'était le titre du panel. Et cette expression est une expression de David Graeber. Comme Nathalie Quintane, on pourrait dire que faire l'émeute dans la langue, Guten Tag, n'est pas assez, que utiliser le mot émeute ne suffit pas à faire de la politique ou à être politique. Or, la radicalité de Waldman tient à ce qu'elle a toujours conçu l'écriture comme l'un des éléments d'un ensemble par lequel elle a contribué à changer l'écosystème poétique, bien au-delà de ce que les poètes font en règle générale. Non seulement elle a fait l'émeute dans le poème et sur la scène, mais elle a aussi pensé et pratiqué la construction d'espaces critiques et d'espaces communautaires ouverts comme une intervention politique. Ainsi, elle a dirigé la revue Angel Hair, qui a contribué à redéfinir la communauté des poètes du Lower East Side dans les années 60. Elle a été la directrice pendant 10 années du Poetry Project à St. Mark's Church, qui est maintenant une institution, mais elle l'a pris au tout début, en faisant un lieu où la poésie alternative pouvait vivre. Elle a créé aussi en 1974, avec Allen Ginsberg, mais Ginsberg s'en est rapidement détaché, l'école d'écriture qui s'appelle The Jack Kerouac School of Disembodied Poetics à la Naropa Université dans le Colorado, qui est bien plus qu'une école d'écriture, qui est une école à faire des expériences poétiques, à expérimenter la puissance transformative de l'écriture dans une communauté provisoire, et j'insisterai sur ce provisoire, un lieu bien différent de l'ensemble des programmes d'écriture créative aux États-Unis. Avec ce lieu qui ne fait pas partie, du moins pas à son origine, d'une institution d'éducation supérieure, elle fait cailler l'institution de la poésie, la court-circuitant en quelque sorte, en créant de nouvelles zones du dissensus. Il y a dans ces zones la construction d'un « nous », la conscience de forger une communauté de poètes comme un gouvernement temporaire de poètes expérimentaux. Pourtant, il ne me semble pas qu'elle ait fait école avec cette école. C'est-à-dire que si de nombreux poètes disent leur dette à cette formation, Waldman n'a pas formé d'épigone, il me semble. Les étudiants ont trouvé dans cet inconfort accueillant et dans son amitié, dans ces lieux où on publie, où on écoute, où on discute, à bâton rompu ou non, bref, dans les espaces critiques qu'elle a créés, les étudiants ont trouvé l'énergie et l'idée pour leur propre action poétique, sans que cela en fasse des disciples. Dans son livre sur la démocratie, le penseur de l'anarchie David Graeber parle de zone d'improvisation culturelle ou de zone d'improvisation démocratique. Anne Waldman, elle, a employé par le passé la formule d'Akimbe, zone autonome temporaire, pour décrire son école d'écriture dont je viens de parler. Si je cite Graeber ici, c'est que Graeber comme Waldman ont participé activement à Occupy Wall Street, ce mouvement qui pensait l'action politique en dehors des institutions des partis et pour une redéfinition des rapports entre les citoyens. Et cet engagement est tout à fait cohérent non seulement avec les aspirations progressistes d'Anne Waldman, mais il dialogue avec sa poétique anarchique, où elle pratique souvent ce qu'on pourrait appeler des arrangements sans arrangements, des agencements d'une anarchie productive de sens multiplié ou opacifié, ce qu'elle appelle des structures dissipatives, empruntant l'expression au physicien et chimiste Ilya Prigogine, chez qui elle désigne un système qui peut sembler chaotique, bien qu'il soit organisé. C'est dans ces systèmes ouverts que d'autres se sont reconnus et ont pu trouver des ressources pour s'inventer ou se réinventer. Son écriture, l'écriture de Waldman, signifie au-delà même de ce qu'elle a souhaité faire. Ainsi, on retrouve la trace de cette écriture, de ses engagements, de ses organisations anarchiques chez la poète, romancière et activiste Rachel Levitsky, qui a cofondé en 1999 le collectif queer Belladonna Collaborative. Rachel Levitsky avait suivi les enseignements de Naropa et très très récemment, il y a 2 ou 3 jours, elle vient de dire sa dette immense à Anne Waldman. Elle lui a rendu un hommage appuyé. Dans le descriptif de Belladonna que vous voyez ici, que je n'ai pas le temps de lire, pardon, pour des raisons de temps, mais on peut y revenir, on perçoit tout ce que Rachel Levitsky a pu inventer de nouveau dans le féminisme en résonance avec son enseignement à Naropa. D'autres poètes, là aussi je coupe un peu ma communication sinon elle va être trop longue, d'autres poètes ont été influencés, Caroline Bergvall, Brenda Coulthess, Ambrose Bay ou Eleni Sikenianos et bien d'autres. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité lire le travail de Anne Wildman avec Nathalie Quintane. Cela pourra sembler curieux, puisque Nathalie Quintane est plus proche, par exemple, de quelqu'un comme Caroline Bergvall, qui va lire dans 2 jours. Mais la raison pour laquelle j'ai souhaité la lire avec Nathalie Quintane, c'est pour rappeler que si Anne Wildman est une mémoire vivante de la poésie des années 70 et une passeuse d'archives, elle n'est pas vouée à rester une poète des années 70, car l'écriture ne suit pas des temporalités en ligne droite. Je veux ajouter ici, pour une chose un peu plus personnelle, qu'elle m'a beaucoup appris lorsque nous performions les textes et leur traduction. Sa façon de me suggérer des rythmes, des découpages, de me guider par un bref signe de main, de faire la partition de la lecture avec moi, d'avoir confiance en son partenaire, de me glisser en début de performance que si ces textes ont une dimension sérieuse, il ne s'agit pas de les lire de façon sérieuse, de toujours mêler à eux l'humour et l'autodérision. Pour un dernier aperçu de la façon dont ces structures dissipatives se disséminent, sans qu'elles fassent école, je terminerai par dire qu'il semble évident que Fine Speaking Woman a, disons, eu des répercussions, des échos, ou même peut-être une influence sur Happy Woman de la pièce focale récente de la performeuse et danseuse Meredith Monk, très proche d'Anne Wildman, de la même génération, et que Wildman a beaucoup invité, et réciproquement d'ailleurs. Mais Meredith Monk, je vais en passer un extrait pour terminer, mais Meredith Monk dit que sa pièce n'a rien à voir avec Fast Speaking Woman, qui, comme on l'a entendu, est des années 75, et elle l'a entendu des quantités de fois. Donc il ne s'agit pas de savoir si elle a raison ou tort, de lui donner raison ou tort, on s'en fiche complètement, mais on peut tout de même remarquer qu'elle est construite sur les mêmes principes que Fast Speaking Woman, c'est-à-dire une liste, et puis la générativité de la lettre. Dans ce que je vais passer, vous entendrez que A Happy fait suite Hungry, donc le H, et ensuite, dans ce que vous n'entendrez pas, Tender fait suite à, précède Thieving, qui commence lui aussi avec un T. Et puis, elle ajoute à cela, Meredith Monk ajoute à cela, un élément d'ironie et de gaieté de l'énergie projective de la voix. On peut se dire que c'est le résultat de la façon dont le travail d'Anne Wildman circule et s'offre aux autres, le résultat de sa politique horizontale, si on peut dire. Son œuvre passe et se dissémine ainsi pour ressurgir presque inconsciemment. Et donc, je veux terminer, si j'en ai le temps, par vous faire entendre un petit extrait de Meredith Monk chantant Happy Woman comme une sorte de statement. Hein. Je laisse une autre voix prolonger celle de Anne Wildman et je laisse cette voix terminer ma communication.
It's called Happy Woman, and Ellen Fisher, Joe Stewart, Katie Geisinger joining Meredith Monk and Allison Sniffen here in the studio. Let's hear another live performance of an excerpt from Meredith's latest project called Cellular Songs.
Oh, I'm a happy woman, I'm a happy woman. Oh, I'm a happy woman, I'm a happy woman. Oh, I'm a happy woman, I'm a happy woman. Oh, I'm a happy woman, I'm a happy woman. Oh, I'm a happy woman, I'm a happy woman. Oh, I'm a happy woman, I'm a happy woman. Oh, I'm a happy woman, I'm a happy woman. Oh, I'm a happy woman, I'm a happy woman. Oh, I'm a happy woman, I'm a happy woman. Oh, I'm a happy woman, I'm a happy woman. Oh, I'm a hungry woman, I'm a hungry woman. Oh, I'm a hungry woman, I'm a hungry woman. Oh, I'm a hungry woman, I'm a hungry woman. Oh, I'm a hungry woman, I'm a hungry woman. Hey, you, ha, ha, hey, ha. Hey, you, ha, ha, ha. Hey, you,
Merci.
Merci beaucoup, Vincent, pour cette communication qui était passionnante et qui donne envie d'aller écouter d'autres performances de toutes les femmes poètes dont tu as parlé. Je propose de prendre les questions, il y en a plusieurs, mais à la fin de la communication de Jeanne. Voilà, on va enchaîner avec la communication de Jeanne Baccara, que je vais présenter. Donc Jeanne Baccara, bienvenue. Jeanne Baccara est chercheuse en lettres, docteure et auteure d'une thèse portant sur la question du trouble dans la poésie et la peinture de Michaud et l'œuvre de Joyce Mansour. Elle est en ce moment professeure de lettres dans le secondaire et critique littéraire pour la revue En attendant Nadeau. Elle s'intéresse à la poésie moderne et contemporaine, à ses liens avec les autres arts, mais aussi à la question du genre en poésie. Sa communication aujourd'hui s'intitule « Joyce Mansour, le poète femme du groupe surréaliste » et c'est une citation d'André Breton.
Oui, merci beaucoup Lénaïgue et merci à toutes pour l'organisation de ce colloque avec ce programme vraiment magnifique. Je voudrais donc aujourd'hui évoquer la poétesse Joyce Mansour, sur laquelle j'ai travaillé dans ma thèse avec l'œuvre de Michaud, mais aujourd'hui évoquer plus spécifiquement son œuvre à elle. Je la présente rapidement. Elle était membre du groupe surréaliste, plutôt de la seconde moitié du surréalisme, d'origine égyptienne. Elle est arrivée donc à Paris en 1956 après l'accès au pouvoir de Nasser, qui l'a forcée donc avec sa famille à quitter son pays natal et à s'installer à Paris, où elle a continué à écrire, puisqu'elle avait déjà commencé un petit peu avant. Et son premier recueil, Cri, a été publié en 1953. Et donc aujourd'hui, je voudrais partir d'une citation d'André Breton qui la caractérise dans un entretien dans le journal Le Monde en 1962. Il dit que c'est Joyce Mansour est le poète femme du groupe surréaliste. Alors, le poète femme du groupe surréaliste, cette expression ne peut que nous interroger aujourd'hui. Alors, il révèle la conception de la pratique de la poésie au sein du groupe surréaliste, mais Breton rend aussi incontestablement hommage à la poétesse, qui d'ailleurs lui a dédié tous ses recueils, de son premier recueil Cri jusqu'à son recueil Les Damnations, qu'elle publie l'année de la mort de Breton. Une correspondance est établie entre eux et Breton, je voulais citer aussi une autre expression dans une lettre, la qualifie aussi de tubéreuse enfant du conte oriental. Il lui écrit encore « J'aime le parfum d'orchidée noire, ultra noire de vos poèmes ». Donc on le voit, Breton ne manque pas de ramener Joyce Mansour à ses origines, mais aussi aux stéréotypes tout à fait surréalistes et mis au jour par la chercheuse Xavier Gauthier dans « Surréalisme et sexualité », de la femme enfant, de la femme fleur, de la femme par excellence pour les surréalistes, mystérieuse, intrigante. Mais il tend aussi, par cette expression, à assigner la poétesse à une identité de genre et laisse entendre une conception androcentrée de la pratique poétique. Avec ce pronom personnel défini masculin « le » accolé au substantif épicène « poète », lui-même adossé avec un tiré au substantif « femme ». Donc il associe une pratique artistique qui ne semble alors pouvoir se concevoir et se désigner que comme masculine, le poète, à l'identité de genre de Joyce Mansour, la femme. Il faut quand même souligner, malgré tout, comme le souligne le chercheur Guillaume Bridé, alors j'ai fait un petit diaporama que je vais peut-être pouvoir partager. Comme ça il y aura sa citation que c'est donc je est-ce qu'on voit oui donc j'ai mis oui alors j'ai pas présenté également le travail artistique de Joyce Mansour qui a écrit des poèmes mais qui a aussi réalisé des sculptures à partir de clous qu'elle achetait au BHV et qu'elle rassemblait sur des sculptures. Alors voilà, j'ai mis deux exemples. de ces petites sculptures qu'elle a gardées plutôt secrètes, mais qu'elle a exposées une fois dans une galerie d'art surréaliste. Donc, il faut quand même souligner malgré tout que dans le groupe surréaliste, il y avait des femmes. Et comme le souligne Guillaume Bridé, donc dans la longue citation que j'ai mise dans mon diaporama, il y avait les femmes ont trouvé une place tout particulièrement à partir de la seconde moitié du XXe siècle, après 1945. Et Joyce Mansour contribue avec Gisèle Prasinos, Lise de Harme, Léonore Fini, Bonade Mandiargue, Valentine Penrose, Annine Lebrun, Unica Durne, Leonora Carrington, à la création de ce nouveau paradigme d'un art au féminin qu'évoque ici Guillaume Bridé en reprenant les analyses d'Elisabeth Lebovissier et Catherine Gonard également. Malgré tout, par cette phrase, en faisant de Joyce Mansour le poète femme du groupe surréaliste, André Breton opère aussi une forme de déni d'antériorité, telle que selon l'expression de Delphine Naudier, en faisant de Joyce Mansour une femme exceptionnelle, l'unique femme poète du groupe, alors qu'il y en avait, il y en avait d'autres. Donc cette expression de Breton est révélatrice de la place des créatrices dans le groupe. Mais donc il faut souligner malgré tout que Breton leur octroie aussi une autre place que celle simplement de muse, de modèle, même si elle est essentiellement celle-ci. Et s'il y a des poètes femmes, elles sont malgré tout toujours aux marges du centre du groupe qui est lui constitué essentiellement d'hommes. Donc cette expression aussi souligne la perspective différentialiste dans laquelle il s'inscrit pour penser le genre. Mais comme l'affirme aussi Guillaume Bridé dans son analyse du surréalisme et de la place des femmes dans le groupe, le surréalisme s'ouvre à une forme de trouble dans le genre qui lui permet ainsi d'accueillir en son groupe des femmes créatrices qui repensent les limites entre le masculin et le féminin. Et Joyce Mansour fait partie, comme je vais essayer de le montrer, de celles qui déjouent la représentation stéréotypée de la créatrice comme de l'image de la femme surréaliste. Alors, l'expression de Breton qui fait Joyce Mansour le poète femme du groupe est à l'image de ce trouble dans la création qu'elle suscite elle-même de plusieurs manières. Alors, d'une part, en choisissant de collaborer essentiellement avec des hommes, et il semblerait que ce soit aussi un choix de sa part. Il y a un seul exemple de collaboration avec une artiste femme qui est Nanou Vialar, plutôt à la fin de sa vie. En choisissant aussi de collaborer donc avec des peintres, et donc de faire sortir la poésie du seul champ de l'écriture poétique, en affirmant un moi au féminin empreint d'une féminité troublée, traversée par du masculin, en reprenant les clichés de genre de l'époque, mais en les subvertissant finalement avec humour, puisque l'humour est très présent aussi dans sa poésie, l'humour noir, et en inventant de ce fait, par sa poésie, une posture de poète critique, qui invente une langue de la critique empreinte d'érotisme, comme je vais essayer de le montrer à travers un exemple de micro-lecture que je vais proposer, extrait d'un poème qui s'intitule « Pandémonium » que Joyce Mansour a écrit en 1972 à propos de la peinture de Wilfredo Lam, donc peintre afro-cubain, avec qui elle était liée, dont elle était amie. Puisque je précise que ses collaborations avec les peintres étaient souvent le fruit d'une amitié avec les peintres. Voilà. Alors, je voulais proposer aujourd'hui une analyse un peu plus précise donc, d'un poème, donc ce poème Pandémonium, dont j'ai mis des extraits ici. Peut-être que si je mets en mode diaporama, ce sera plus grand pour vous. Voilà. Donc ce poème, elle le lit en 1976 à la Galerie Loeb à Paris, alors que Wilfredo Lam est exposé pour une rétrospective. Donc c'est un poème qui finalement ne s'attache pas à une seule peinture de Wilfredo Lam, mais au contraire retrace une forme de parcours à travers l'itinéraire pictural de Wilfredo Lam. Donc il faut imaginer que ce poème a été dit à voix haute, donc il n'y a malheureusement pas d'enregistrement de ce moment, mais donc c'est un poème qui a été écrit pour être dit à l'oral, pour être prononcé devant un public lors d'un vernissage. Donc c'est aussi un poème de circonstance, et d'hommage aussi à un poète dont elle était amie et sur qui elle n'avait jusqu'à présent, en 1976, jamais eu l'occasion d'écrire. Pour elle, elle considérait donc Wilfrid Olam comme un des plus grands peintres de son époque. Et cette collaboration arrive finalement assez tardivement. Donc, on peut voir à travers son poème qu'elle s'inscrit au centre du poème, s'exprime en son propre nom, affirme un jeu poétique, comme je vais le montrer, un jeu poétique, un jeu lyrique, en dialogue avec un tu pictural. Alors, je vous propose juste de lire peut-être le début de ce poème, qui est long, hein, c'est presque un recueil finalement, mais donc là j'ai mis quelques extraits et le début, dans lequel elle s'adresse directement à l'Afrique elle-même, à travers Wilfrid Olam et à travers sa peinture. Offre ta gorge à la nuit, obsédante Afrique. Crache tes dents, tes déchets, tes vertiges, dans la crème fouettée de l'église. La trompe de la mouche à viande, mince priape ralentie, à l'eau amniotique se désaltère, arrache une pierre du brasier, une couronne d'épines, noir vermillon comme les sept lampes. De l'embolie, riez nomades, la vieillesse est casanière. Loin dans la forêt, un scarabée scintille. Seul sur une dune éventée, l'asperge pousse une pointe, un cri. Le vent aux yeux de perroquet, aux funèbres processions et tournoiements de famine. Le vent flagelle tes flancs avides, tes fœtus de paille, ta croupe édentée. Frénétique Afrique, nulle cruauté dans le sang répandu, nulle contrainte. Afrique, grande nuit de la mort édénique, le regard perlé de l'araignée loup, prend naissance dans la tombe de ton noir gosier sec. Ululé, chacal, rhombe, oblation de virginité, circoncision, la pluie. Donc, au début de ce poème, elle s'adresse directement à l'Afrique, qu'elle interpelle, qu'elle apostrophe littéralement. L'Afrique, pour elle, renvoie à l'espace maternel et originel ambivalent, à la fois proche et lointain. C'est en Égypte que sa mère meurt alors qu'elle n'a que 15 ans. Et c'est l'Égypte qu'elle doit quitter donc en 1956 et Égypte où elle ne reviendra que bien plus tard. Donc l'Afrique renvoie à l'espace de l'enfance perdue, mais aussi de la langue morte, de l'anglais qu'elle a abandonné à ce moment-là. En quittant l'Égypte pour la France, donc Joyce Mansour abandonne sa langue maternelle, et l'Afrique renvoie donc pour elle à cette langue perdue, cette langue morte, et cette langue coloniale abandonnée à cause de l'exil. Donc la peinture de l'âme semble la ramener à cette coupure qu'elle met en scène dans ce poème. Et on peut d'ailleurs noter les nombreuses références aux coupures et aux brisures qui apparaissent comme des rites de passage et qui renvoient non seulement au passage de l'enfance à l'âge adulte, mais aussi de l'Afrique à l'Europe. Et ici, dans cet extrait, on peut voir à la fin donc, du poème l'évocation des oblations de virginité, l'évocation des circoncisions. Plus loin, dans un autre extrait, elle évoque l'oison que l'on excise, le soulèvement de la calotte polaire, le prépuce offert au couteau. Donc il y a toutes ces métaphores qui renvoient à la coupure, à la brisure. Donc cette métaphore aussi s'incarne tout particulièrement dans la construction même du poème, puisque comme je le montrais, donc, elle débute son poème en s'adressant, en apostrophant l'Afrique, et dans la deuxième partie du poème, elle va instaurer un jeu qui apparaît à travers cet extrait, à travers le « j'éternue ». J'éternue, qu'elle écrit en italique, et donc qui se distingue dans le fil du poème, avec un jeu aussi sur le mot de j'éternue, donc qui pourrait ici renvoyer à l'expression d'une forme de jouissance, mais qui laisse aussi entendre la nudité, qui résonnerait avec l'éternité, j'éternue, donc avec l'image d'un jeu qui se libère de son passé, qui se libère aussi de ses images. Donc la peinture de Wilfrid Olam semble, par sa force onirique, réactiver le passé oriental de la poétesse, qui évoque les brises alizées des plages d'Orient, je la cite, et qui est un souvenir qui est tout à la fois empreint de désir et de violence, comme on peut le voir dans l'extrait ici, sous la coupole et ses volutes, les avatars et les fissions de métal, souvenirs sur le tapis diaphane rutilant du sang qui s'irise, les déhanchements d'une langue jamais apprise. Donc on peut voir à travers cette évocation de la langue jamais apprise aussi, soit une évocation aussi du langage pictural qu'elle n'a pas forcément appris, puisqu'elle était avant tout poète, et que ce langage pictural, elle s'y est confrontée par la poésie, mais c'est aussi la langue française dont elle dit qu'elle ne l'a jamais appris, mais qu'elle l'a pratiquée sans l'avoir jamais vraiment apprise. Donc ici, Joyce Mansour insuffle du féminin, de la corporéité, dans un engagement, dans un geste où on perçoit un engagement personnel qui résonne comme une forme aussi de geste politique, d'affirmation de soi, d'affirmation d'un corps féminin comme puissance. Avec ce parallèle donc, entre le jeu poétique et l'Afrique, et cette Afrique qui apparaît comme un corps, alors dans des, avec aussi des impensés coloniaux, qui apparaissent aussi dans ce poème, donc avec l'Afrique qui apparaît comme une image de femme, de mère, qui apparaît comme une femme qui, donc avec l'évocation de la gorge, de ses dents, de sa tête, où l'on voit aussi apparaître l'image d'une mère violente, d'une mère dévorante, avec le mythe du vagina dentata, aussi analysé par Xavier Gautier, du vagin denté, qui apparaît aussi dans cette évocation de la croupe édentée de l'Afrique. Donc l'Afrique apparaît ici comme un espace saturé de féminin maternel où les formes naissent, dans lequel s'opère une série d'inversions qui font advenir aussi de nouvelles images sans transition, dans un surgissement successif ininterrompu d'images. On voit aussi dans ce poème le côté flamboyant de la succession des images qui s'engendrent les unes les autres dans une forme de devenir. Donc Joyce Mansour, à partir de la peinture de l'âme, donne à voir des passages également entre les différentes identités sexuées. Alors elle évoque la mouche à viande au début du poème, la trompe de la mouche à viande mince Priap ralentie, qui fait signe vers le dieu grec Priap, mais aussi sans doute vers le tableau de Wilfredo Lam, qui est ici donc l'empereur des mouches, sans que Joyce Mansour ne le nomme jamais, qui était donc un des tableaux exposés lors de cette exposition en 76. Donc la mouche à viande du poème est sans doute celle qui est représentée à droite du tableau en noir, sous la forme presque humaine, avec plusieurs jambes. Elle désigne par cette expression l'ambiguïté de la figure, qui est aussi entre l'insecte, l'animal également mort. Elle est ici raccrochée à un masculin exubérant, qui se désaltère à l'eau amniotique, qui apparaît comme une forme de féminin en même temps nourricier, maternel, voire originel, et qui apparaît dans le poème, au-dessus, dans le tableau, au-dessus de l'œuf blanc, ici, à travers un halo transparent qui semble sortir du corps de cette mouche à viande. Donc si la mouche est associée à un masculin hyperbolique, ce dernier est en même temps comme affaibli, amoindri, puisqu'il est qualifié de mince, de ralenti. Et à l'inverse, le féminin incarné par l'Afrique semble puissant et dévorant, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'elle enjoint l'Afrique donc à cracher ses dents, avec cette Afrique qui apparaît avant tout comme une bouche. Mais plus loin dans le poème, l'Afrique est désignée aussi à travers son noir gosier sec, donc avec une image ambivalente de stérilité et de fertilité à la fois. Donc Joyce Mansour explore toutes les parts d'un féminin cannibalique, régressif, qui contiendrait en lui un masculin déréglé, avec ce Priap qui renvoie à une virilité hyperbolique, avec une ambivalence des identités sexuées au sein même des corps eux-mêmes. Et on retrouve ce fantasme de la femme dévoratrice du mal dans d'autres poèmes de Joyce Mansour, et notamment dans un poème aussi évoqué par Xavier Gautier, qui est L'amoureuse guerrière, dans un recueil qui s'appelle Carré blanc, où elle affirme qu'elle dévorera celui qui violera ses flancs aux pulsations barbares. Donc avec cette dévoration aussi comme vengeance de celui qui la violerait. Donc de la même manière, à travers l'Afrique de la peinture de l'âme à laquelle elle s'identifie, Joyce Mansour se met implicitement en scène dans Pandémonium, dévorant elle-même les images du peintre, les incorporant et les recrachant en mots. C'est elle qui semble d'une certaine manière cracher ses propres souvenirs à elle petit à petit dans le poème, recracher sa propre Afrique fantasmée, rêvée, ce continent natal au corps de femme et de mère traversé de masculin. Donc il y a cette avidité des images qui apparaît dans le poème lui-même et dans cette langue critique qu'elle invente, qui est une langue cannibale, dévoreuse d'images, de corps et du corps de l'autre, donc des souvenirs aussi de l'autre, puisqu'elle s'empare des tableaux intimes de l'âme qui met en scène souvent des figures féminines, des figures maternelles dont elle s'empare également. tout en faisant tournoyer cela dans un chaos qui pourrait être un chaos originaire. Alors le poème, le titre du poème, Pandémonium, laisse entendre ce chaos des formes. Dans le poème également, autour de cette question des identités sexuées qu'elle fait circuler, elle évoque un androgyne, l'étoile du soir, l'androgyne enfin, à cheval sur deux ponts, air, le soleil dans le couchant, la lune à pic dans l'entrejambe, une cathédrale gothique, miroite à se fendre l'âme dans la boue du chemin faisant. Donc, dans ce passage, la poète insiste sur l'espace de l'entre-deux, à cheval sur deux ponts, l'entrejambe, donc incarné par cette image de l'androgyne. Et se dessinent ainsi de nouveaux rapports de pouvoir ici. Joyce Mansour souligne dans la peinture de l'âme l'omnipotence du féminin sur le masculin qui se trouve ralenti, circoncis, et qui nous ramène encore aussi à cette image du vagina dentata que j'évoquais tout à l'heure. Donc jusqu'à la fin de Pandémonium, l'espace de l'Afrique est celui de l'espace de la libération des pulsions sexuelles, des identités sexuées, et aussi un espace d'affirmation, de jouissance, d'un jeu au féminin à travers un corps de femme qui s'incarne ici de manière assez agressive dans le poème. Jusqu'à la fin du poème, donc Joyce Mansour instille une forme d'érotisme aussi dans sa langue et invente une langue que je qualifierais également de picturale, puisque cette langue semble elle aussi dessiner de nouvelles formes, inventer de nouveaux mots, inventer des néologismes, emprunter aussi des mots d'autres langues, donc à travers le titre Pandémonium, et des mots en anglais qui parsèment aussi ces poèmes. À la fin du poème, elle finit par ces vers. Mieux vaut pénétrer la mer, sa semence est le mal désir, son grand rêve salé tarit. Mieux vaut mourir en rut que renoncer à la luxure. Beau fruit de la révolution, l'homme libre vaincra la mort. Donc avec ces derniers vers qui tranchent avec l'ensemble du poème et l'affirmation donc d'un geste politique lié ici à un geste érotique et d'un geste de transgression aussi des interdits qu'elle affirme ici de manière assez violente. Donc on distingue ici dans ce poème une forme de ce que j'ai pu appeler une forme d'érotique du regard chez Joyce Mansour qui s'empare de la peinture de l'autre et qui, par sa langue poétique, sature l'image de l'autre d'image érotique. Si bien que c'est la langue même de Joyce Mansour qui apparaît comme une langue du désir et empreinte d'un désir d'image. Donc l'image picturale apparaît chez elle comme fondamentalement liée au corps féminin, au corps érotique. Et ce regard sur l'image est pris dans cette relation érotique aux dimensions souvent aussi homosexuelles. Je ne l'ai pas évoqué, mais c'est quelque chose aussi qui est très présent dans ses poèmes. Donc Joyce Mansour, le poète femme du groupe surréaliste, elle est aussi poète avant tout qui s'intéresse à la peinture, donc elle invente une poésie picturale, en dehors aussi des assignations de genre, même si elle les reprend pour mieux, comme j'essaie de le montrer, faire circuler les différentes identités, les identités sexuées. Voilà.
Merci beaucoup. C'était aussi passionnant, surtout que c'est une boîte qu'on redécouvre beaucoup ces dernières années. Du coup, cette communication est d'autant plus passionnante. Il y a plusieurs questions. Peut-être, est-ce qu'on peut commencer par celle qui s'adresse à tous les deux ? La seconde génération des New York Poets, à laquelle on rattache souvent Anne Wallman, faisait régulièrement référence à la poésie surréaliste. On le sait des hommes poètes dans ces deux groupes, mais moins à propos de leurs femmes poètes. Qu'en est-il ? Est-ce qu'on connaît des dialogues entre des poètes femmes américaines et des surréalistes françaises, elles aussi invisibilisées dans ce groupe ? Je ne sais pas si l'un ou l'autre peut commencer à répondre.
Je laisse peut-être Vincent. Oui, je vous laisse.
On se laisse chacun la parole. C'est-à-dire que je crois qu'il faudrait, pardon de dire les choses comme ça, mais la véritable spécialiste des échanges transatlantiques, c'est Abigail Lang, et peut-être serait-elle à même de répondre plus tard, un autre jour, je ne sais pas. Mais quant à moi, je serais bien en peine de le dire, non seulement parce que je ne l'ai pas noté, je n'ai pas vu cela, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est moins le rapport au surréalisme chez Anne Wildman qui me frappe que la façon dont elle recycle un ensemble extraordinaire de poétique et de traditions littéraires, dont le surréalisme. Et c'est vrai que le surréalisme a été extrêmement important, que ce soit pour les beat poets comme les poètes de la génération de New York. Mais je crois aussi que la façon dont le surréalisme se diffuse aux États-Unis est une... comment dire ? C'est presque comme si ce qui intéressait les poètes américains, ce n'est pas tant de rencontrer ces poètes que d'essayer de voir comment ces poétiques leur permettent de faire quelque chose de nouveau sur le sol américain. Et donc, sol américain, d'ailleurs, ce n'est pas la bonne expression, mais en tous les cas, dans la poésie états-unienne, disons-le comme ça. Donc, voilà, c'est une réponse en forme de non-réponse, mais merci beaucoup de cette question. Je crois que ça permet aussi d'aller vers des explorations nouvelles et plus nombreuses.
Oui, alors moi également, je ne suis pas spécialiste du dialogue, de la conversation transatlantique entre les poètes français et américains. Alors Joyce Mansour, je n'ai pas ma connaissance oui, je ne connais pas de lien particulier avec les poètes américains. En revanche, elle a noué quand même une collaboration assez importante avec un musicien, poète aussi, Ted Jones, avec qui elle a écrit un recueil de poèmes et qu'elle a illustré également avec lui, avec les dessins de Ted Jones. Elle était intéressée par le jazz et par le free jazz américain. Donc là, se sont noués des liens, mais qui n'ont pas été, qui ne sont pas allés au-delà de la réalisation de cet ouvrage qui est aujourd'hui très difficile à trouver.
Oui, et par ailleurs, pardon, en écoutant Jeanne répondre et en pensant un peu plus à la question, je crois que ce qu'il faut dire aussi, et c'est qu'il me semble, alors là encore, ça demanderait à être vérifié, c'est une pure hypothèse, mais c'est que très souvent, les poètes de la génération, de la Beat Generation, que sont Ginsberg et les autres, sont venus en France, ont été invités par les Français, et peu les femmes. Comme je le disais dans ma communication, c'est une réévaluation récente de la critique, qui a fait donc un travail tout à fait important pour réévaluer le travail des femmes, même s'il y avait dans la deuxième génération ou la moitié de la première, deuxième génération de la Beat Generation, des femmes déjà avec des voix extrêmement importantes, et qui ont réussi à s'imposer à leur époque, Joan Kiger, Diane De Prima, et Anne Wildman, donc. Mais je crois ne pas trop me tromper en disant qu'elles ont beaucoup moins été invitées en France, voire pas du tout, et que dès lors, la rencontre éventuelle avec des poètes surréalistes ou post-surréalisme était peut-être difficile. Aussi sur ce plan-là, sur le plan tout simplement sociologique, quoi.
Merci à vous deux pour cette réponse. Peut-être, je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Il y en avait une notamment à propos d'Anne Wildman, donc pour Vincent Broca. Diriez-vous que chez Anne Wildman, les références aux femmes sont un support de solidarité ou de communauté politique plutôt que la manifestation d'une identité féminine?
Vaste question. Je crois que c'est absolument les deux. Une identité féminine, c'est peut-être sur ce point que Anne Wildman aurait beaucoup à dire, parce qu'il me semble que dans son travail, ce n'est pas tant une identité féminine qu'une, comme je l'ai dit, une identification, une désidentification, une réidentification, une performance du genre. Donc, et de plus en plus, en fait, elle est allée vers cela, passant d'une d'une forme de féminisme des années 60 vers des formes beaucoup plus actuelles du queer, par exemple. Mais est-ce que ça s'oppose? Je ne le sais pas trop. En tout cas, il y a chez elle la double valence qui consiste à, d'une part, affirmer dans Fast Speaking Woman ce mot « woman, 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 woman » et à le proférer, donc avec cette importance capitale. Hein. Mais en même temps, ça n'est pas « the woman », mais c'est « a woman hein. ». Et donc, c'est ce que je disais de ce sujet pluriel, des femmes à la fois une femme plurielle. Donc, il y a ce saisissement et ce dessaisissement de ce que c'est qu'une femme. Et par ailleurs, bien évidemment, il y a un soutien incroyable. Hein. Si par support, on entend soutien, alors oui, il y a un soutien incroyable de Anne Wadman aux jeunes femmes et aux vieilles femmes aussi de sa propre génération. Hein. Elle est constamment, et c'est ça qui la rend extrêmement, importante dans le champ de la poésie américaine, états-unienne, pardon, je déteste le mot américain et pourtant je l'emploie là, états-unienne. Donc, ce qui la rend très importante, c'est qu'elle se tient absolument au courant de toutes les publications et en particulier des jeunes poètes et qu'elle les soutient dans toute leur démarche dans une ouverture en fait à la politique de ces jeunes poètes qui n'est pas forcément la sienne au départ, hein. Et c'est ça qui me semble très important dans ce soutien. Quand je disais qu'elle ne fait pas école, il me semble qu'elle n'a pas beaucoup de disciples, et effectivement ça tient en cette raison que elle laisse les autres prendre la parole, s'emparer du champ poétique, tout en les aidant, tout en favorisant cela, notamment Anna Ropa, avec tous ces dialogues qu'elle essaye de créer. Oui.
Merci. Oui, j'ai l'impression que de manière générale, elle s'est inscrite dans un nombre tout à fait considérable en fait de projets collectifs. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui caractérise toute sa production poétique, et donc avec des femmes, mais également avec des hommes. Et du coup, il y avait une question, je pense qu'on peut quand même la poser pour Jeanne Baccara, qui rebondissait aussi sur cette question-là, du coup, ce qui était cette absence de collaboration en fait, de Joyce Mansour avec les autres femmes du groupe surréaliste. Donc, a-t-on des témoignages de la manière dont les autres femmes appartenaient au groupe surréaliste, appartenant au groupe surréaliste, qualifient ou décrivent le travail de Joyce Mansour, ou inversement, de ce qu'elle a pu dire sur elle, même sans avoir collaboré avec elle?
Alors, Joyce Mansour parlait très peu en dehors de ses poèmes. Donc, il y a très peu de témoignages sur ce qu'elle a pu dire, par exemple, des autres femmes surréalistes. Il n'existe pas à ma connaissance, mais les archives sont très disséminées, par exemple, de correspondances avec d'autres femmes surréalistes. Annie Lebrun, aujourd'hui, la considère comme une référence très importante pour elle. Donc, et l'évoque dans son travail, notamment autour de Sade, puisque la figure de Sade est extrêmement présente dans l'œuvre de Joyce Mansour, et qu'elle est aussi très connue pour avoir accueilli dans son appartement l'exécution du testament du marquis de Sade, qui était une performance qui a marqué le groupe surréaliste, durant laquelle le peintre Mata s'est brûlé une partie s'est fait un tatouage en se brûlant la peau devant un public qui était donc présent, tout cela devant une performance de Jean Benoît qui était déguisé lui aussi. Donc c'était une performance qui a eu beaucoup d'importance dans la constitution du groupe et qui est citée donc par Annie Lebrun, qui fait référence aussi autour de ce moment à Joyce Mansour. Voilà. Et j'avais vu aussi une autre question dans le, mais j'y réponds très rapidement parce que ce qu'évoque Vincent Broca à propos de la poésie de Anne Wallman m'y fait aussi penser sur cette. On me demande si Joyce Mansour se genre dans ses textes. Et elle aussi, elle se définit souvent en disant « je suis une femme » en ajoutant souvent un adjectif ou en se caractérisant souvent de manière plurielle, de manière très ouverte. Et le syntagme « je suis une femme »,« je suis », scande de nombreux de ses poèmes. C'est vraiment une expression qui revient très, très souvent. Donc j'y vois aussi là un lien assez étonnant avec Anne Wallman, et donc elle se genre de manière très ouverte, en fait, dans une volonté de fluidifier aussi son identité, même si elle reprend aussi, comme j'essaie de le montrer, des stéréotypes de genre avec lesquels elle joue avec humour.
Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant ce point particulier, notamment parce que ça offre une sorte de contrepoint à ce qu'on voyait ce matin avec Benoît Leclerc, notamment, et Alferat sur la question du neutre. On a là un autre point de vue. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là si on veut prendre 10 minutes de pause. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et je pense que c'était très intéressant. Ces deux communications se répondaient à plusieurs égards.
Merci beaucoup, merci à vous.
Merci beaucoup.
On se retrouve à 15h45, si ça vous convient, pour le deuxième panel.